Salut Karim.
Salut Lorraine.
Bienvenue dans les studios de Radio Civière et sur la montagne Limousine.
Je te remercie.
Stalingrad Connection est une émission de radio collaborative ouverte aux personnes migrantes, exilées et réfugiées pour obtenir des informations pratiques, s'informer, partager des expériences et s'exprimer.
Stalingrad Connection, radio تشارك qui est ouverte aux migrants et aux réfugiés pour obtenir des informations pratiques, s'informer, partager des expériences et s'exprimer. Tu peux sur Facebook, صفحة Stalingrad Connection.
Stalingrad Connection, c'est une émission qu'on fait sur une radio, une des radios associatives parisiennes. Et là, on a justement un nouveau créneau horaire. On fait une heure par semaine. Avant, on faisait deux fois une demi-heure, ce qui revient au même. Mais maintenant, on fait une heure par semaine, le lundi matin, de 10h à 11h.
Et en quoi consiste l'émission ?
Alors, Stalingrad Connection, c'est une émission pour et par les exilés. Avec des petits morceaux d'exilés dedans.
Comment ça, des morceaux d'exilés, ça fait peur.
Ouais, ça fait peur. Non, je te rassure. Stalingrad Connections, Stalingrad, parce que c'est une place à Paris, bien connue des Parisiens, pour avoir, je ne peux pas dire accueilli, mais en tout cas, elle a vu passer nombre d'exilés et de migrants qui se sont installés sur la place il y a de ça un ou deux ans. Et régulièrement, les flics venaient déloger les exilés, les migrants qui s'étaient posés sur cette place-là. Et donc ça, c'est pour le Stalingrad de Stalingrad Connection. Et Connection, justement, pour qu'on essaie de proposer de refaire du lien entre les exilés qui étaient dispersés dans la capitale et dans l'Île-de-France. Voilà, donc c'est une émission qui se fait avant tout, une émission d'information et de partage d'informations, très pratique. Et donc c'est pour cela qu'elle est, par exemple, traduite en direct en 3 ou 4 langues.
Quelle langue du coup ?
Eh bien, le français, l'anglais, l'arabe, le farsi pour les langues principales. Voilà.
Comment ça s'est fait concrètement ? Donc vous étiez déjà une équipe de Fréquence Paris Pluriel à vous être dit là il faudrait aller faire de la radio un peu en extérieur du coup. Est-ce que vous faites dans les studios ou est-ce que vous faites sur la place ?
Alors l'histoire c'est qu'il y a deux potes qui sont venus me voir en disant bon, carrément on a ça derrière la tête de faire une émission un peu dans cette dans la teinte que je t'ai expliqué, mais on n'est que deux, est-ce que tu voudrais te joindre à nous, et on serait trois, et puis ça serait toujours un plus, et puis moi je faisais déjà une émission sur Fréquence Paris Pluriel, et puis surtout j'avais, en termes d'expérience, j'avais l'expérience de Radio Debout pendant 2 mois, la place de la République a été tenue par des manifestants et on a fait Radio Debout et fort de cette expérience on a vraiment créé un collectif et j'ai proposé au collectif informel de Radio Debout de créer avec les deux autres potes cette radio là donc elle est issue de la rencontre de ces personnes là. Et puis, c'était quoi l'autre...
Où est-ce
qu'on l'a fait ?
Oui.
Alors, l'émission, elle est éclectique aussi dans sa production, à savoir que, on a commencé par faire une émission très montée, avec des reportages, une émission de studio très montée. Et puis après, on est sorti. Puis après, on a fait des émissions un peu partout. Et moi, c'est ce que j'aime bien dans la radio. C'est aussi le côté un peu éclectique de la proposition de Stalingrad Connection où tout est ouvert en fait, c'est-à-dire qu'on peut faire des portraits en studio, on peut aller voir un concert et faire une interview et faire un live lors d'un concert, ou d'une expo. Il y avait eu une expo avec, mélangée avec un concert au Point Éphémère. C'était la troisième ou quatrième émission qu'on a faite.
Donc le Point Éphémère, c'est un lieu culturel qui se trouve très très peu loin de la place Stalingrad.
Voilà, c'est ça. Et moi, je défends un peu cette forme de radio qui ne se tient pas à faire une radio avec une seule teinte.
Comment on organise une émission comme ça avec des gens qui restent sur cette place pour des durées complètement indéterminées et très fluctuantes ?
L'émission se compose grosso modo en quatre parties. Il y a une première partie donc qui se veut très très pratique, que permet le média radio.
Pour manger un repas chaud, des distributions de nourriture ont lieu tous les soirs à 19h.
À savoir où se loger gratuitement, ou dormir gratuitement, ou se divertir gratuitement, et où se laver gratuitement. Des trucs de base en fait.
Mais sur Paris.
Sur Paris, voilà. Sur Paris, sur l'île de France, mais principalement sur Paris. Et c'est des plans qui vont exister aujourd'hui, et peut-être pas demain. Et donc le média radio permet justement de pouvoir partager ce genre d'infos. Donc c'est les infos qui sont partagées en plusieurs langues. Comme ça, le plus de gens peuvent en profiter.
مکان دوم شما می توانید دوشنبه سه شنبه ها و چهار شنبه ها و پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 6 عصر در ایستگاه مترو استالینگراد بروید مکان سوم شما می توانید در روزهای دوشنبه و چهار شنبه در ساعت 8 شب در ایستگاه گاردلز در ابتدای خیابان وختون بروید.
Donc ça c'est la première partie, partage d'information. Il y a également une partie où c'est un peu parcours de vie, je dirais. Et c'est là où le fait d'intégrer, de proposer, de faire l'émission avec des exilés, mais pas obligatoirement derrière le micro. Pas derrière le micro, ça veut dire que c'est pas nous, parisiens, qui tendons le micro et qui disons on fait une émission avec des migrants. C'est on intègre au sein de l'équipe de Stalingrad Connection. Des gens, des exilés qui viennent faire l'émission et qui font partie intégrante de l'émission. Pourquoi ?
Ils font partie intégrante de l'émission, ils font la technique, ils font des interviews.
Ouais, exactement. Ils font la technique, ils font des interviews. Pour l'instant, la plupart font que des interviews. Et la raison, elle est relativement simple pour cela, c'est que on s'est aperçu, et c'est assez logique, que moi, avec mon petit anglais, si je partage des propos avec un Soudanais et qui a aussi un petit anglais, on va se raconter des petites histoires qui vont intéresser pas grand monde. Par contre, s'il y a de la connivence et de la complicité, tel que quelqu'un qui a déjà galéré pour venir, s'il interview un autre exilé, il va y avoir une connivence beaucoup plus importante. Et ça, c'est le cas pratique. Enfin, je veux dire, on l'a vu maintes et maintes fois qu'il se passe vraiment quelque chose à ce moment-là, quoi. Et donc, dans ces moments, on s'aperçoit que, les interviews des exilés sont de bien meilleure qualité, si on se tient qu'à ça, sont de bien meilleure qualité que ce que chacun d'entre nous, on peut faire.
Et peut-être, je ne sais pas, est-ce que c'est lié au fait que ces interviews peuvent potentiellement intervenir dans les langues maternelles des exilés ?
Bien sûr. Bien sûr.
Plutôt que de passer par une langue autre.
Exactement, tout à fait. Et puis aussi, moi je défends le fait que c'est en faisant, en partageant une pratique, pas que dans les mots mais aussi dans le faire, qu'il y a de la complicité et qu'il y a du lien qui va se créer. Et on décide de la radio ensemble, on décide de cette émission ensemble. Et l'éditorial est créé ensemble en fait. Donc il y a pas de, on est tous à la même enseigne.
Vous êtes donc un collectif de radio.
Exactement. Donc il y a ces parcours de vie pour aussi exprimer aux Parisiens que les migrants, les exilés, c'est des gens comme toi, comme moi, quelque part, qui ont une vie, qui font des choses, qui aiment faire des choses, et que c'est pas que des galériens avec deux pantalons et un t-shirt, parce que dans les rues, c'est souvent des hommes qu'on voit, et qui savent faire, et qui peuvent faire autre chose. Et donc, et leur donner aussi envie de faire de la radio. Donc, dire que c'est des gens à part entière, pour nous, c'était important que ça soit entendu par le média radio, par les Parisiens.
Stalingrad Connection.
J'avais 25 ans et j'ai passé des 5 ans jusqu'à 25 ans à me demander qui je suis. Si vous me demandez tu viens d'où, bah, je veux d'abord réfléchir. Si je dis je suis soudanais, je n'ai même pas mon acte de naissance parce que la maison s'est brûlée. Si je dis que je suis tchadien, la région où j'ai grandi, c'était au cœur du lac Tchad, entre le Cameroun, le Tchad et le Nigeria. Et après ça, ils ont décidé que toute personne qui n'est pas tchadien doit quitter le territoire. La Libye, j'ai passé 9 ans, je parle parfaitement arabe depuis tout petit, mais je ne peux même pas accepter de dire que je suis libyen. Jamais. C'était un beau pays. Dans l'OTAN, j'ai aimé avant les années 2011. C'est un pays que je respecte. J'aime beaucoup. Et à un moment, c'est devenu qu'on joue au football, ils nous tirent dessus, ils tuent 3 personnes, 4 personnes. C'est devenu l'enfer. Mais je vais où? Et même s'il faut me renvoyer, si vous me demandez, on veut te renvoyer, alors tu veux aller où? Chez moi, j'ai quitté mon pays depuis 20 ans. Ça fait 20 ans. En Libye, je ne peux pas aller, ni au Tchad. Je suis quelqu'un qui est perdu à tout jamais, quoi. Et quand on arrive ici, ils disent que c'est des migrants économiques ou des migrants quoi, je ne sais pas, des migrants ou des envahisseurs. Qui peut accepter la mort? Si vous mettez le feu dans le dos d'un animal, il va s'enfuir. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas mourir, il connaît la douleur et puis voilà, c'est naturel, quoi. Vous imaginez que tout votre espoir se repose sur un bateau, toute une famille, père de famille, mère de famille, enfant, adolescent, qui est assis dans un bateau qui flotte avec sa vie, espérant avoir un jour une nouvelle terre, la France, l'Italie ou n'importe où, où il y a la paix, où il n'y a pas de coup de feu, il n'y a pas de violence, mais que l'espoir se retourne en enfer. Et que les gens de chez nous, ils savent pas nager, il n'y a pas la mer chez nous. Il n'y a que le désert. Quand on tombe à l'eau, on va tapoter jusqu'au dernier souffle. Et j'ai des amis qui ont fait la traversée de l'Égypte en Italie. Ça fait souvent 20 jours dans l'eau. Et ce n'est pas un naufrage. C'est pire qu'un naufrage parce qu'ils meurent de faim et de soif alors qu'ils sont en train de naviguer dans la Méditerranée. Il y a l'eau d'abord. Ils finissent l'eau. Ils n'ont pas de l'eau à boire. Ils ne peuvent pas boire l'eau de la Méditerranée parce que c'est très salé. Et la deuxième chose, c'est que la nourriture... Ils n'en ont pas. Et du coup, ils embarquent 800 personnes, ils arrivent avec 500 ou 400 quelques. Chaque fois, il y a des cadavres qu'il faut mettre dans l'eau. Et quand on n'a pas le choix, il faut choisir soit de mourir sur place, soit d'essayer de traverser de l'autre côté dans l'espoir d'arriver peut-être. Vous pensez que les réfugiés qui viennent ici, ils ne savent pas qu'il y a un naufrage? Si, ils le savent. Ils savent très bien que si je mets mes pieds dans le bateau, je sais que je peux avoir un naufrage et je peux mourir, mais il n'y a pas de solution. Je reste chez moi, je suis exterminé racialement parce que j'appartiens à telle famille où je suis noir. La Méditerranée, c'est comme une échappatoire. Et du coup, soit ça marche bien, soit ça ne marche pas bien. Il y a une chose aussi qui se passe en Libye. Ils ont arrêté de manger du poisson, tellement il y a des naufrages dans l'eau. Vous voyez, ils ne veulent pas. Tellement c'est devenu qu'il y a des naufrages et les passeurs qui embarquent des personnes dans des bateaux qui font naufrage. Ils ont dit que si on mange du poisson, c'est l'être humain qu'on est en train de manger. Ça ne se vend pas le poisson et ça ne se pêche même pas. Ils s'en moquent. Ils préfèrent manger de la viande. Vous voyez, mais personne ne sait ça ici en France. Que là-bas, le poisson, ils savent très bien qu'il y a des personnes qui meurent chaque jour dans l'eau. Et qu'ils sont dévorés par des poissons. Et le fait de manger un poisson revient à manger un être humain. On subit des choses vraiment invivables. Et puis, surtout les filles. Ce qui est choquant, c'est les filles. Les filles ne travaillent pas. subissent des viols. Imaginez une fille de 16 ans enfermée dans une maison comme ça, dans l'eau noire, avec à manger, à boire, et qui satisfait le besoin de tout voyou qui se nomme militaire ou combattant d'un côté militaire. Tu as besoin d'une fille, tu vas chez telle personne, il a des esclaves. Et puis les filles qui sont enceintes, qui ont une grossesse un peu avancée, sont libérées et jetées dans un bateau qui vient ici en Europe. J'ai vu un campement où les gens ont été divisés. Il y a des filles de l'autre côté et il y a les jeunes personnes de l'autre côté. Il y a les vieux personnes qui sont vulnérables et ils subissent pas, ils attendent. S'ils ont la chance, ils sont embarqués. Mais si tu es jeune, tu es en bonne santé, un autre, il t'achète par exemple à 1000 dinars, équivalent de je ne sais pas combien d'euros, actuellement 250 euros. C'est la tête d'un être humain, un Érythréen qui coûte plus cher qu'un Africain de l'Ouest, parce qu'il a de la famille qui peut payer pour libérer. Et un Égyptien qui coûte encore très très cher parce qu'il est un maçon qui peut construire. Et du coup, la Libye, c'est devenu comme un territoire de chasse. Je sais bien de quoi je parle. J'ai vécu là-bas, j'ai grandi là-bas. Je pense que c'est un pays où un être humain, qu'il soit blanc ou noir ou jaune, avant de bouger, il doit savoir où il met les pieds. Quand j'étais là-bas, j'étais au sud parce qu'il n'y avait que des noirs. Il y avait une résistance. Il y avait une armée qui combattait au nom des noirs qui veulent la paix et la liberté. Et je sais que si je vais à Benghazi, il y a des Arabes qui se révoltent contre les Noirs et je ne peux pas aller là-bas. Si je vais à Tripoli, je peux être capturé, vendu ou décapité, juste comme un animal. Donc, si tu es un blanc, tu dois savoir aussi prendre ton côté. Et je ne pense pas que ça existe des endroits comme ça sur Terre. Je ne pense pas. J'ai eu des amis, j'ai connu un ami qui était avec moi dans le campement à Jaurès, devant la France Terre d'Asile. On était dans une même tente comme ça. Et du coup, il m'a dit, ici, les démarches, ça ne fonctionne pas. On s'est installé devant la France Terre d'Asile parce qu'on voulait demander l'asile. Il ne nous recevait pas pendant un mois. Il m'a dit, je lui ai dit, tu vas où? Il a dit, je vais à Calais et je vais essayer de passer en Angleterre. Et il avait son numéro. Et il est allé là-bas, il est resté pendant, je ne sais pas, un mois et quelques jours. Il n'avait pas de téléphone, mais il avait une liste dans laquelle il y avait mon numéro. Et du coup, il a essayé d'aller en Angleterre, il a été percuté par un véhicule, il est mort. Et du coup, quelqu'un a pris le numéro, il a appelé tous ces gens. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, tu connais telle personne, il avait été percuté par une voiture, il est mort. Et c'était quelqu'un avec qui j'étais ici à Paris. Et ça m'a beaucoup choqué. Il y a quelque chose qui me dit que ça va s'arranger. Ça se passe très, très difficile pour moi, mais il y a un côté qui me dit que c'est juste une page qui va se tourner.
Vous êtes toujours sur Stalingrad Connection.
ما زلت معانا على ستالينغراد كونيكشن.
Vous êtes toujours sur Radio Bassivière en compagnie de Karim dans une émission spéciale Stalingrad Connection, une émission de radio diffusée sur la radio associative Fréquence Paris Pluriel.
Il y a un troisième versant qui était un version un peu plus léger, à savoir une porte ouverte sur l'artistique, sur l'ailleurs. Donc Donc, lecture de poésie, de chants, de musique, faites par des migrants. Et puis, en dernier lieu, quelque chose qui marche un petit peu moins pour le moment, qui était aussi de faire un peu un Radio Londres. C'est-à-dire, comme je le disais au départ, comme les camps sont régulièrement cassés par les flics, avec pas mal de violence, les gens peuvent rompre des liens qui s'étaient mis en place. Et donc, ben moi, je suis ici, toi, t'es là-bas, on se rencontre, etc., etc. Un peu la bouteille à la mer de ce qu'on a, des messages comme ça, entre migrants qui n'ont pas besoin, eux, d'être traduits. Voilà.
Et du coup, une heure par semaine sur Fréquence Paris Pluriel, on peut l'écouter en streaming, en podcast, j'imagine.
Alors, on est sur Fréquence Paris Pluriel, il y a le direct. Et puis, on a en podcast, pour l'instant, on a un audioblog d'Arte Radio, où on dépose toutes les émissions. Et aussi, on a une page Facebook, Stalingrad Connection. Alors juste, je précise, le connection, c'est le terme anglais. Et le terme anglais, c'est C-O-N-N-E-C-T-I-O-N, et pas un X, voilà.
Que ce soit bien clair entre nous.
Voilà.
Et donc, c'est bien clair maintenant que c'est une hebdomadaire. Et c'est quand même une fréquence, une régularité assez dure à tenir en radio quand on est bénévole. C'est assez impressionnant de réussir à le tenir. Et comment ça se passe, du coup, pour réussir à produire quelque chose chaque semaine, sachant que ça n'a pas de forme prédéfinie, que c'est aussi mouvant que ce que tu expliquais?
Chaque semaine, on revoit un petit peu quelle émission on va faire, et c'est pour ça aussi qu'elle change de forme d'une semaine sur l'autre.
Donc vous vous réécoutez.
Ouais. Ouais, on renaît à chaque fois un petit peu.
En fonction du coup des événements potentiels ou des envies de chacun.
Exactement, exactement.
Et est-ce que dans le collectif que vous êtes, du coup, il y a beaucoup de mouvements au sens où les migrants sont des gens, les exilés, qui bougent beaucoup?
Ouais, alors ça c'était effectivement quelque chose qu'on n'avait pas imaginé lorsqu'on a créé l'émission. C'est que moi j'aime bien la radio et je suis un peu tranquille dans ma vie, un peu posé, et j'ai une stabilité qui me permet d'une semaine sur l'autre de m'intéresser à ce média-là, et j'ai pas de problème de chez moi, en fait. Que c'est loin d'être le cas de tout le monde et des exilés. Donc effectivement, une des problématiques qu'on a, c'est que ben, effectivement, ils bougent beaucoup, et que d'une semaine sur l'autre, c'est pas facile d'avoir cette régularité de présence, parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter que de faire la radio aussi. Même si c'est des super rencontres, des super moments, etc. Mais c'est une putain de vie qu'ils ont, quoi.
Et alors, du coup, quand même, vous avez constitué ce premier collectif qui avait bien envie de faire ça, avec donc tes deux potes et puis ensuite tout le réseau de Radio Debout. Mais il a bien fallu que vous ameniez vos guêtres sur la place Stalingrad pour venir proposer le projet. Comment ça s'est passé?
Alors, en fait, on n'a pas vraiment... Quand on est arrivé, nous, il y avait quasiment plus de campements à Stalingrad. Donc ça, on ne l'a pas fait vraiment. On a fait une émission au Jardin des Halles, qui n'est pas très très loin de Stalingrad, qui a dû être écourtée parce que les flics sont venus en disant qu'on n'avait pas le droit de faire
de la radio dans les jardins.
Voilà. Et donc, parce qu'on avait une table de mixage, etc. Donc, on a coupé la table de mixage et puis on a terminé au Zoom. Hein. Voilà, au petit enregistreur numérique. Mais ça l'a fait. Voilà.
Mais c'est surtout en termes humains, en fait. Comment vous êtes allé voir des migrants, et quels migrants que vous avez croisés où?
On a entre autres... Paris, c'est grand et en même temps, c'est petit. Ça veut dire qu'il y a un réseau. Les migrants, au début, ils arrivent, ils sont un peu seuls, mais très rapidement, il y a du lien qui se fait aussi entre migrants. Et aussi, dans l'équipe, il y a une copine qui est bénévole à la maison d'un journaliste. La Maison des journalistes, c'est une petite structure associative qui offre des résidences à des journalistes qui sont en exil parce que en danger chez eux. Et par ce biais-là, on a été en contact avec quelques migrants. Et donc, on a commencé à fabriquer des émissions avec eux, d'autant plus que c'était des gens qui étaient, pour qui le journalisme, ça disait déjà pas mal de choses. Ça, c'est d'un côté. Et puis aussi, on est en contact avec des associations de soutien sur Paris, le BAM, la Chapelle Debout, qui font beaucoup, beaucoup de boulot. Et donc, par cet intermédiaire-là, on fait des émissions ensemble et ils viennent aussi avec leurs potes.
D'accord. Petite parenthèse autopromotionnelle concernant la Maison des journalistes. Vous pouvez aller sur le site de Radio Vassivière, réécouter une intervention de Mikaela Nguebla, journaliste tchadien, enregistrée l'année dernière à Aubusson. Parenthèse fermée. Comment vous avez abordé au départ la question de la langue et du plurilinguisme à la radio?
C'est une vraie question qui perdure encore aujourd'hui. En fait, c'est compliqué de faire de la radio en plusieurs langues. Il faut savoir accepter de pas tout comprendre. Moi, j'ai dû. Moi, je m'appelle Karim, mais je parle pas arabe. C'est aujourd'hui que je vois que c'est vraiment dommage pour moi. Et puis, j'ai un anglais un peu déplorable. Donc, tout ça, ça rend les choses un peu compliquées. Mais en même temps, à partir du moment où on a vraiment envie de faire des choses, où on est autour d'une table et qu'on a vraiment envie de communiquer, on trouve toujours une solution. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, la question de la traduction, c'est pas quelque chose de facile, parce que la traduction, c'est un métier en fait, et que intervenir comme ça, savoir couper des propos, être juste, c'est compliqué.
Et du coup, tout à l'heure, tu parlais d'une traduction en 3 ou 4 langues. Mmh. C'est énorme en termes de temps aussi, de déploiement du même propos à l'antenne. Du coup, ce même propos est déployé par 4 dans le temps. Mmh. Comment vous êtes positionné entre... Enfin, poser la question de l'auditeur ou...
Alors, si tu veux, on est pris entre deux fronts. Il y a un premier front qui est justement un propos qui va être traduit en 4 langues, puis le même propos retraduit en 4 langues. Ça va donner quelque chose de relativement lourd à écouter. Donc ça, c'est en la défaveur de la traduction en plusieurs langues. Et en parallèle de ça, on tenait aussi à ce que ces propos-là ne soient, par exemple, pas traduits uniquement sur une émission en farsi ou en arabe, parce que on défend le fait que ça, là, c'est une communauté et que moi, ce qui est important aussi, c'est non seulement de faire du lien entre français, tout bas parisien, je ne sais pas trop quoi, et un afghan, mais aussi entre un érythréen et un soudanais. Savoir qu'il y a des choses aussi qui peuvent se jouer là, et elles se jouent aussi autour d'une table lorsqu'il y a plusieurs langues. Et le fait, et donc là, c'est en faveur justement de... on ne veut pas faire une seule émission. Moi, si tu veux, je rêve... ou en tout cas je fantasme l'écoute de Stalingrad Connection où il y aurait une multitude de nationalités représentées autour d'un poste et que chacun puisse commenter, rigoler, engueuler le poste, mais aussi qu'on prenne et après qu'il y ait du lien, que ça crée du lien entre les exilés, quoi, parce qu'on est toujours plus fort quand on est plusieurs.
Ce sont, pour ne pas te le cacher, des questions qu'on s'est un peu posées de manière clairsemée comme ça à Radio Vassivière, à différentes occasions. Il y a un moment où on s'était dit, bon ben, on pourrait tout à fait faire une émission où il n'y a pas une minute de français. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait ?
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. On défend aussi l'autonomie de chacun d'entre nous. Et donc, il y a des exilés qui ont voulu faire une émission. Eh bien, l'idée aussi de Stalingrad Connection, c'est de fabriquer aussi un outil. Et à terme, petit à petit, moi et les potes qui ont mis ça en place, on s'en extrait. Et que s'il y a des gens qui... et surtout des exilés qui prennent cet outil en charge, eh bien, tant mieux. Après, c'est une histoire de confiance, de savoir ce qui s'est raconté. Mais ça nous est déjà arrivé, ouais.
Et justement, nous, nous sommes français, nous sommes potentiellement farcis de préjugés sur d'autres nationalités.
Farcis, ouais.
Et certaines personnes parlant farcis sont peut-être farcis de préjugés sur d'autres nationalités.
Bien sûr.
C'est quelque chose dont on se rend compte assez vite quand on fréquente... des Français et des exilés. Voilà. Est-ce que ça arrive que parfois ces préjugés-là soient mis de manière évidente sur la table dans la discussion et discutés en direct ? Ou est-ce que c'est quand même des choses dont on évite de parler ?
Non, en fait, comme je te disais, il y a une bonne partie des gens qui viennent de la maison des journalistes. Et donc, c'est un peu la crème, en fait. C'est un peu des intellos. Et même si on le regrette parce que socialement, c'est pas si ouvert que ça, on s'en aperçoit et ça, on essaie aussi d'aller chercher d'autres gens. Mais pour l'instant, c'était des gens qui étaient assez ouverts. Peu importe de là où ils venaient, c'était des gens qui étaient assez ouverts. Donc ce genre les préjugés peuvent exister, mais sont toujours, sont facilement... relayable, enfin oublié ou discuté, mais ouais, facilement. Ouais.
Stalingrad Connection fait sa rentrée sur les ondes de FPP. L'émission sera désormais diffusée chaque lundi de 10h à 11h. Bienvenue dans la toute première émission de la deuxième saison de Stalingrad Connection.
Stalingrad Connection تفتتح برامجها عبر أمواج FPP. هذا البرنامج سيتم عرضه يوم سيتم بثه يوم الاثنين بين العاشرة والحادية عشرة. أهلا وسهلا بكم في برامجنا.
Pour la première émission, Stalingrad Connection propose de faire un bilan de l'été et un point sur la situation actuelle des réfugiés à Paris, avec des acteurs de terrain, trois voix de bénévoles des associations Utopia 56, Petit Déj à Flandre et Solidarité Migrants Wilson. Une émission en deux langues, en français et en arabe.
بالنسبة للحلقة الأولى فإنكم في ستالينغراد كونكسيون تستمعون إلى تقرير حول وضعية المهاجرين في فرنسا في فترة الصيف ووضعيتهم في باريس وما هو مستجد في وضعيات اللاجئين بشكل عام وذلك عبر ثلاثة أصوات من المناضلين من جمعية إيتوبيا 56 منظمة ثانية ومنظمة أخرى اسمها Migrant Wilson. Le programme sera en arabe et en français.
Depuis 2015, des conflits dans les pays du Nord Sahel, du Proche-Orient et de l'Asie centrale poussent des centaines de milliers de personnes à trouver refuge en Europe et notamment en France. Depuis deux ans, plusieurs campements de rue comptant plus de 2000 personnes se sont constitués dans le nord de Paris. L'errance et l'attente dans la rue peuvent durer des mois. Le délai pour accéder aux différents centres d'accueil et d'orientation est de plus en plus long. Pour empêcher l'installation de campements dans la capitale et ne pas reproduire la situation à Calais ou à Grande-Synthe, l'État fait régulièrement disperser ces campements. Pour les bénévoles, cette dispersion ne fait que précariser les migrants, et notamment les mineurs.
منذ منتصف العام 2015 فإن حالات الاضطراب في دول جنوب ساحل إفريقيا والشرق الأوسط تتعرض لحالات من الاضطراب مما ينتج عنها هروب الملايين من هؤلاء اللاجئين إلى دول أوروبية. ومن بينها فرنسا ومنذ سنتين فإن مجموعات من المخيمات تم إقامتها في الشوارع في باريس يزيد قاطنها على 2000 شخص وهي تشكل بؤرا تحتاج إلى المساعدة والتنظيم وتتركز في غرب باريس
Le 18 août dernier avait lieu la 35e évacuation d'un campement parisien à Porte de la Chapelle, invisibilisant un peu plus les personnes réfugiées et exilées qui n'ont pourtant pas quitté la capitale.
في الفترة الأخيرة تم نقل مخيم في لا شابيل وسط باريس وهي حالة يعترض عليها كثير من الحقوقيون.
Début septembre, l'association Utopa 56 annonce qu'elle quitte le camp dit humanitaire pour migrants de la Porte de la Chapelle et dénonce l'ingérence négative de l'État et va jusqu'à qualifier ce camp de piège pour les réfugiés et migrants.
في سبتمبر الماضي أعربت منظمة إيتوبيا 56 عن انتقاداتها لوضعيات اللاجئين في لا شابيل ودعت السلطات الى مزيد من الاهتمام بوضعيات اللاجئين في باريس.
Les témoignages d'acteurs de terrain que nous avons invités aujourd'hui nous aideront à y voir un peu plus clair sur la situation et l'avenir des réfugiés à Paris.
شهادات الفاعلين في مجال اللجوء الذين نستضيفهم اليوم ستعطينا صورة اوضح بالنسبة لوضعية المهاجرين في فرنسا.
Pour commencer, nous voudrions partager avec vous un reportage fait par Ahmet et Hassan, deux journalistes afghans pour la Stalingrad Connection, qui ont interviewé un Afghan, membre du collectif Utopia 56, à Porte de la Chapelle.
وقبل بدء الحلقة سنستمع إلى تقرير عدو صحفيان من Stalingrad Connection في Porte de la Chapelle مع أحد ضحايا الهجرة.
Hello and good afternoon, ladies and gentlemen. Today we are here in Porte de la Chapelle camp. It is a camp of refugees. So we have come across to one of the volunteers whose name is Mr. Matthew. He will tell us about the problems and the mismanagement inside the camp that the refugees are making complaints against. So yes, can you tell us what are in under which conditions the refugees are living? Is it good? Are the refugees happy with them?
Pour le savoir, vous pouvez vous rendre sur l'audioblog Arte Radio de l'émission Stalingrad Connection. Je vous rappelle Connection, C-O-N-E-C-T-I-O-N. Merci Karim d'avoir profité de ton passage sur la montagne Limousine pour être venu nous parler de Stalingrad Connection.
Merci.
Et bonne écoute.
Et je voulais aussi vous demander à tous, maintenant que vous nous avez expliqué tout ce que vous pouvez reprocher au gouvernement, quelles vont être vos méthodes d'action ?
On va continuer notre action de base, parce que, comme je disais tout à l'heure, les migrants, c'est le centre de notre préoccupation. Mais pour que les choses évoluent dans un sens positif, notre action supplémentaire sera la communication. Une meilleure communication, des écrits, on ne lâchera pas. On a vu ce qui s'est passé cet été, on n'a pas tellement fait de compte-rendu de nos petits déjeuners parce qu'on n'avait pas le temps matériellement. Et j'ai entendu dire des choses du style « Alors, il n'y a plus de migrants, vous continuez toujours ?» Alors qu'on continuait comme des fous. Mais les gens ne savaient plus. La communication, c'est vital. Ça peut être Facebook, ça peut être la presse, mais ça peut être la communication chaque jour. Moi, j'essaie de toucher personnellement 10 personnes chaque jour dans mon quartier, dans le 18e, dans mon immeuble, dans les commerces. Quand j'en parle, les gens sont outrés, scandalisés, indignés, mais ils ne savent pas. Et pour finir, j'aime bien raconter cette anecdote. Je discutais régulièrement avec les personnes au Franprix qui travaillaient à la Porte de la Chapelle, qui ne savaient pas qu'il y avait un centre humanitaire juste à côté de chez eux. Ils ne le savaient pas. Donc, les gens ne sont pas au courant. Donc, il faut communiquer. Et notre action sera ça. C'est gratuit. Ça commence déjà de bouche à oreille. Et après, la presse et, par exemple, cette émission de radio.
أنا أريد أن أضيف حاجة مهمة وهي هنالك حاجة ملحة إلى الدعاية والتحسيس تحسيس المواطنين الفرنسيين من أجل أن يساهموا في دعم هؤلاء المهاجرين. أنا مثلا سأقول لكم بأني أقوم بالتحسيس يوميا بالنسبة لأقل من 10 أفراد على الأقل 10 أفراد. وسأحكي لكم ما حدث معي في متجر مونوبري الذين يوجدون في لا شابيل لم يكونوا يعرفون بأن هنالك يوجد مركز يتقبل مساعدات لتوزيعها على اللاجئين ويمكن استخدام كل وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والصحافة وهذا البرنامج يأتي في هذا الإطار.
Même question pour Jérôme, du coup, citoyen et membre du collectif Petit Déj à Flandre.
Eh bien, Anne-Marie a dit le nerf de la guerre qui est en train de se jouer, parce que c'est une sorte de guerre citoyenne. Il s'agit de jouer sur de l'information, j'allais dire de la réinformation. Mais en fait, les gens ne savent pas. Donc, nous, on va évidemment continuer l'action de terrain, évidemment, parce que évidemment, les gens en ont besoin. Mais c'est aussi, comment dire, c'est aussi ce qui nous permet d'être au contact de cette réalité tous les jours, parce que la situation évolue. Et parce qu'on se nourrit, en fait, aussi de ces relations. Pour nous, ce ne sont pas des chiffres, quoi. Ce ne sont pas des individus, ce sont des relations. Et ça, c'est important, parce que c'est là-dessus, en fait, qu'on va s'adresser, non pas à une poignée de militants. Enfin, pour moi, l'enjeu est là. Ce n'est pas de s'adresser à une poignée de militants. Moi, je me considère comme militant, donc j'ai aucun problème avec ce mot-là, mais il faut viser large. Il y a une bataille de l'opinion publique à mener, on ne va pas être de trop. Il y aura des gens comme Utopia, il y aura tout le collectif des associations qui a été reçu, qui risque de se faire balader, mais qui va quand même repartir à l'attaque. Je veux parler de ce grand collectif de Médecins du Monde jusqu'à Emmaüs, en passant par... logistie, etc. Chacun défend des idées différentes là-dedans. Moi, je crois qu'il faut élargir. Et nous, il faut qu'on puisse viser les consciences, une opinion publique de proche en proche, comme l'a très bien dit Anne-Marie, c'est-à-dire viser des voisins, des amis, et au-delà de ça, informer. Le message est très simple. L'État ne fait pas ce qu'il dit. L'État entretient une duplicité. Et quand on donne une couverture... et que des gens trouvent ça formidable qu'on donne une couverture, il faut qu'on puisse dire à côté, eh bien, vous voyez, cette couverture va être retirée par l'État lui-même. Peut-être même dans la nuit où on l'a donnée. Et je dirais même plus, quand on nourrit, c'est pas, l'État ne reprend pas la nourriture telle qu'elle, mais presque, en fait, puisque l'État va organiser la pénurie administrative qui fait qu'au lieu que la personne attende une journée ou deux, elle va attendre un mois. Pour organiser cette politique où on décourage, il faut que les gens savent et transmettent à leur famille et à leur pays qu'il ne fait pas bon venir en France. Donc cette politique de découragement, moi je n'ai pas forcément à prendre parti pour dire combien de migrants on doit accueillir, etc. Mais en tout cas, mettre en avant le droit dont par ailleurs la France se prévaut à titre, bon là, avec Macron, même à titre de politique, quoi, de politique généreuse, voilà on a ce discours-là. Et puis à titre symbolique, évidemment, jouer sur les grands ressorts de la politique de l'accueil, de la France terre d'asile. Ça, je crois qu'on est tous... On est des droits de l'homme, on est tous convaincus, associations, citoyens, etc., que ce n'est pas le cas. Que ce n'est pas le cas parce que c'est une volonté politique et que cette chose-là, il faut la montrer, il faut la faire voir et la dénoncer et aussi largement que possible pour inverser cette... je dirais, voilà, pour moi, c'est une bataille de l'opinion sur la migration. Les gens pourront se faire après leur idée. Hein, je veux dire, on peut être pour ouvrir les frontières, mais moi je refuse l'assignation de tous les politiques pour dire vous êtes des militants, vous êtes pour l'ouverture des frontières, et nous sommes des politiques responsables et nous pensons que nous n'avons pas les moyens parce que vous avez vu le chômage, etc. Moi, je pense qu'il faut inverser. Vous êtes des politiques irresponsables puisque vous avez la charge de l'accueil des migrants qui fait partie du droit international, qui fait partie du droit européen et du droit français, et vous ne le faites pas. Et au lieu de dire on ne le fait pas parce qu'on ne sait pas le faire, vous organisez une désinformation continue avec l'aide des médias. Enfin, pas de FPP, j'espère.
إذن هنالك حرب حقيقية أنا سأسميها حرب إعلامية يجب خوضها ويجب النجاح في هذا فيما يخص التوعية والتحسيس، توعية المواطنين، توعية المهاجرين، العمل الميداني والاتصال بهذا الواقع بشكل يومي، لأنه بالنسبة لي في أن الهجرة ليست مجموعة أرقام، إنما هي علاقات إنسانية. إذن هنالك حملة ضد حملة في فرنسا وفي كل العالم بين منفتح على استقبال الآخر وبين من يرفض استقبال الآخر. إذن الدولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها، فرنسا يجب أن تتحمل مسؤوليتها في حقوق الإنسان، في مجال حقوق الإنسان، في مجال فرنسا أرض الاستقبال، من أجل الكرم من أجل استقبال هؤلاء اللاجئين وتوفير ما يتطلبه وما تطلب وضعياتهم من تسوية إدارية واستقبال ومنح الأوراق والغذاء والطعام.
Donc Stalingrad Connection se lie à vous pour diffuser ces informations. Dernière question pour vous, est-ce que vous pourriez rappeler pour les gens qui nous écoutent ce que vous faites et où et quand vous vous retrouvez?
Alors du coup moi je fais partie de l'association Utopia 56, donc nous on est une association de mobilisation citoyenne et une association humanitaire, donc on se regroupe pour l'instant essentiellement à Porte de la Chapelle, mais on va quitter ce centre humanitaire, mais on va continuer à travailler dans le 18e. Nos missions c'est de répondre aux besoins premiers essentiellement que sont se nourrir, se loger, enfin voilà, vraiment les besoins vitaux et aussi de les référer, donc de responsabiliser l'État, parce que oui, c'est de sa responsabilité d'accueillir les migrants. Et aussi justement de mobiliser ses citoyens, parce que c'est aussi de l'opinion publique que peuvent venir les changements, et que si les citoyens sont tous défavorables à l'accueil des migrants, il est évident que le gouvernement ne fera rien pour les accueillir, mais si les citoyens sont favorables et en parlent et le disent haut et fort, on arrivera à faire changer les choses.
الخدمات التي نقدمها للمهاجرين هي الغذاء والسكن والمستلزمات الأولية والدعم الإداري. تقوم أنشطتنا حول محاور هي دعم المهاجرين، تحميل الدولة لمسؤوليتها، توعية المواطنين.
Solidarité Migrant Wilson, à la base, ce sont les petits déjeuners à la porte de la chapelle, un endroit fixe. On a changé plusieurs fois. Actuellement, elle est à hauteur du numéro 61. Rue de la Chapelle, tous les jours, 7 jours sur 7. Depuis le 10 novembre, on continue cette action. On y sera demain matin, de 10h à 11h. Souvent, ça déborde un peu. Parfois, ça va jusqu'à midi. Ce qui est clair, c'est qu'on commence à 10h, pas trop avant. C'est plutôt un brunch, du coup. C'est copieux. Et notre action principale, c'est donc ces petits déjeuners. On peut nous trouver sur la page Facebook, même si on n'a pas de compte Facebook. On peut regarder le planning. On peut regarder des liens. C'est une page très bien garnie. Vous pouvez aussi taper Solidarité Migrant Wilson sur Google. Actualité, il y a plein d'articles, des vidéos qui racontent nos actions.
Donc, nous, dans cette période, فإن منظمتنا تختصر أنشطتها على الإفطار، توزيع الإفطار كل يوم في منطقة لاشابيل. كل يوم نوزع الإفطار في الصباح من فترة 10 نوفمبر لغاية هذا المساء. غدا سنوزع الإفطار، إذن يبدأ الإفطار من الساعة 10 حتى الساعة 11، وأحيانا يصل الساعة 12. لدينا صفحة على الفيسبوك يمكن تصفحوها.
Donc les petits déj à Flandre.
Alors nous, on a des lieux de distribution, on en a deux, un qui est sur le quai de Seine, juste après le MK2 au début, et puis un autre qui est à Pajol, sur l'Esplanade, j'ai oublié son nom, l'Esplanade à côté du collège Aimé Césaire, enfin c'est la rue Pajol, près du carrefour avec Riquet, enfin on le trouve facilement.
إذن نحن لدينا فرعين لتقديم مساعدات. مساعدتنا أيضا هي تتعلق بالجوانب الأولية، الغذاء والخبز، توفير الطعام والشراب، الدعم الإداري. بعض أعمالنا تقوم على جمع المساعدات من طرف محلات تجارية ومن المخابز. هنالك أيضا دعم حقيقي من طرف بعض السكان الذين يساعدوا المهاجرين، بينما هنالك بعض السكان يرفضون تواجد المهاجرين أمام بيوتهم.
Merci à tous. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter?
Un des messages essentiels à entendre aujourd'hui est justement au niveau d'un peu ce brouillard médiatique que nous donne l'État sur la situation. C'est que je pense qu'il faut vraiment entendre ce message, qu'on n'est pas dans une crise de l'immigration en France et en Europe, on est dans une crise de l'accueil des migrants. Et ça, c'est vraiment une différence qui est ultra importante. On est en capacité d'absorber les migrants qui arrivent. Il y a simplement une volonté de l'Europe et de la France de ne pas le faire. Donc voilà, je pense que cette phrase est super importante. Il n'y a pas de crise de l'immigration, mais il y a une crise de l'accueil des migrants.
أنا أريد أن أقول بأن الأزمة لا تتعلق بأزمة هجرة لكنها أزمة تسيير الهجرة. فرنسا وأوروبا قادرة على استقطاب وعلى دمج العديد والعديد والعديد من اللاجئين، فقط هنالك حاجة لإرادة حقيقية من أجل فتح الباب أمام هؤلاء المهاجرين.
Solidarité à Paris, en tout cas, parce que je ne peux parler que de ce que je vois à Paris, c'est gigantesque. Donc au niveau opinion publique, je rencontre beaucoup plus de gens favorables à de l'entraide et on travaille énormément avec d'autres collectifs et de plus en plus d'associations se parlent et donc il y a une belle mouvance et je ne désespère pas, il y a quelque chose de positif qui se passe en ce moment.
أنا أعتقد بأن هنالك شيء إيجابي يتعلق بتعاون ملحوظ ومنضبط ومضطرد بين الهيئات والمنظمات المدافعة عن حقوق المهاجرين في فرنسا. أنا أتحدث عن باريس بشكل محدد.
Je partage ce qui a été dit. Je vais ajouter une dernière chose très rapide. Un des enjeux majeurs, c'est de changer le regard des gens sur les exilés. Ce ne sont pas les visages de la misère du monde. Ce sont des gens qui pourraient être nous et qui ont été contraints de partir de chez eux et de tout quitter pour vivre et survivre.
إذن هنالك حاجة من أجل أن نوضح أن الهجرة هي موضوع إنساني أكثر من أي جانب آخر ويجب دعم الخيارات التي تدحو نحو استقبال المزيد والمزيد من المهاجرين في الأرض الفرنسية.
Merci à tous, Yvan pour Utopia 56, Anne-Marie pour Solidarité Migrants Wilson et Jérôme pour Les Petits de la Flandre. Vous êtes les bienvenus de nouveau sur notre antenne et merci beaucoup à Djibril pour la traduction et les questions.
Merci.
Stalingrad.
Vous pouvez vous rendre sur l'audioblog Arte Radio de l'émission Stalingrad Connection. Je vous rappelle, Connection, c'est O-N-E-C-T-I-O-N.